Ici, voici le sixième bulletin d'information de la BBC.
Ensuite, on est dans un axe plus... Alors, c'est la question de l'action. Agir dans et agir contre le maquis. On a rassemblé donc diverses contributions, donc celle d'un jeune historien lyonnais, Stéphane Weiss, qui a travaillé sur des formes, des organisations de la résistance dans le sud-ouest, dans le Gers. Je passe très vite, le bataillon d'Armagnac. Une contribution qui est plus générale, plus macro, moins monographique, qui est celle d'Emmanuel Chevet, donc c'est un jeune historien dijonnais qui a travaillé sur la gendarmerie. Alors, on entend dire tout et son contraire sur la gendarmerie, bien évidemment, c'est un corps, c'est une institution, donc comme toutes les institutions, c'est ni tout blanc ni tout noir, c'est comme l'Église, c'est comme dire que l'Église est collabo, c'est une connerie. L'Église, c'est très complexe. Il y a eu de la collaboration, mais il y a aussi des prêtres résistants, etc. etc. Et bien chez les gendarmes, c'est la même chose. Simplement, parfois, il y a, du point de vue du corps, comme tout corps constitué, une tentation hagiographique, faire l'histoire de la gendarmerie par les gendarmes, avec parfois, on garde dans le récit que ce qui nous arrange. Et donc, une histoire critique de la gendarmerie en contexte de guerre, c'est passionnant. Alors malheureusement, moi j'aurais aimé que Emmanuel nous parle de la brigade de la Chapelle en Vercors, parce qu'elle est à bien des égards exemplaire et ce n'était pas son objet de recherche, donc il est sur d'autres territoires. Mais néanmoins, je pense que ces réflexions macro peuvent nous aider à comprendre aussi ce double jeu des forces de l'ordre qui peut être, le jour, on est un appareil de répression, la nuit, on peut organiser la dissidence, ou au moins la laisser faire. Et puis, parfois aussi, la saboter. Et puis, comme la plupart aussi des grands corps d'État, les gendarmes en 1940, ils ne sont pas dans le même rapport avec le pouvoir. Le régime de Vichy en 1940, il est parfaitement légitime. En 1944, il l'est néanmoins, y compris pour les dignitaires de la gendarmerie. Donc, c'est aussi tout le côté fluent des grands appareils de l'État en contexte de guerre. Ensuite, une contribution de quelqu'un aussi qui est assez mobilisable dans la région, qui est Bernard Delpal, qui fait partie du réseau Mémora, qui est un historien de Lyon 2 à la retraite, qui est à Dieulfi. Et Bernard, je veux lui rendre hommage parce qu'il ne ménage pas sa peine, il n'est pas tout jeune. Et lui se bagarre pour faire reconnaître aussi la résistance civile. Il est aujourd'hui un des spécialistes de la figure des justes. Il a organisé un grand colloque à Moissac, il vit à Dieulfi, donc avec les communes de Dieulfi, Chambon-sur-Lignon et puis Moissac, donc qui ont été dignifiées par l'État d'Israël, avec des cérémonies de distinction, de familles qui ont protégé des Juifs. Et donc Delpal, il est beaucoup sur ces questions de résistance civile. Il est assez proche de l'historien Jacques Semelin, qui, vous savez, écrit ce livre important qui s'appelle « Sans armes face à Hitler ». Résistance, qui est une authentique résistance qui a peine à se faire reconnaître à côté de la résistance combattante, qui est la vraie grande résistance. Alors c'est vrai que la résistance civile, aujourd'hui, il y a des travaux qui s'efforcent de la faire reconnaître. Et là, pour ce bouquin, il nous a proposé une contribution sur deux figures du Parti communiste allemand qui ont fui la dictature nationale-socialiste et qui sont venues s'installer dans la Drôme et qui ont... avec les méthodes qui sont celles aussi du Parti communiste, ont fait agréger leur combat un certain nombre d'acteurs du monde rural, en particulier en détournant des jeunes des chantiers de la jeunesse, ce qui a remplacé le service militaire sous le régime de Vichy, donc en quelque sorte un service civil, mais néanmoins patriotique, et en allant faire un peu de la propagande auprès de ces jeunes gens et les faire s'engager dans la résistance. Et il retrace un peu la biographie de ces deux grands cadres qui ont un destin, deux figures majeures de la vie politique allemande qui ont séjourné dans notre région, ça c'est assez important, clandestinement. Ensuite, alors, une intervention de Peter Lieb. Peter Lieb, vous en avez forcément entendu parler, c'est un historien allemand. C'est un historien militaire. Il exerce ses fonctions dans une institution qui est l'équivalent de Saint-Cyr. Alors, j'ai dit en Angleterre, maintenant en Allemagne. Et Peter Lieb, il a écrit un petit bouquin sur le Vercors. Malheureusement, il n'est pas traduit en français, sur la bataille du Vercors vue par la Wehrmacht. C'est intéressant. À partir des sources allemandes. Donc là, on a l'envers du décor. Peter Lieb, c'est un historien... quand je dis ça, c'est pas dépréciatif. Quand je dis qu'il est conventionnel, c'est pas... Disons qu'il sollicite assez peu les sources orales. C'est pas son objet. Lui, c'est les archives dures. C'est-à-dire que lui, c'est les sources des ministères, des états-majors. Donc il a une lecture du point de vue des organisations, c'est-à-dire comment finalement la Wehrmacht organise la répression. Et s'accommode ou ne s'accommode pas. C'est pas une analyse de terrain par le soldat allemand lambda de la manière dont les choses ont été vécues. Et Peter Lieb, il a fait une intervention à Nantua, à notre demande, il y a 2 ans. Et c'était passionnant parce que Nantua, c'est une ville ouvrière aussi un peu sur le déclin économique. C'est très dur, Nantua, aujourd'hui. Et puis, toute la ville était là. Il y avait 150 personnes, y compris les familles turques. C'était un moment très important de venir se faire raconter son histoire par un Allemand. Vous imaginez un peu la force symbolique. Et Peter Lieb, il a raconté comment la Wehrmacht... Bon, parce que, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas sur le Vercors hein, que les assauts de la Wehrmacht ont été les plus violents, c'est en particulier sur les maquis du Jura. Parce que c'était des maquis frontaliers, beaucoup plus stratégiquement, beaucoup plus importants du point de vue des routes à contrôler, Genève, etc., etc. Et donc, ils ont vraiment enquiquiné les Allemands. Ils ont mis des moyens considérables. Il y a d'ailleurs des villes incendiées, hein, dont on parle assez peu, Dortan. Je ne sais pas si vous faites la route, par exemple, d'Oyonnax à Saint-Claude. Dortan, c'est quatre fois la taille de Vassieux. C'est une ville martyre. On n'en parle pratiquement jamais aujourd'hui. Et donc, Peter Lieb, il a fait ce travail-là. Voilà. Donc, il documente. Alors, nous, on espère que son travail sur le Vercors sera un jour publié en français. Ensuite, une contribution de Gilles Vernion. Bon, Gilles Vernion, vous connaissez, c'est le grand historien du Vercors, spécialiste. Bon, il a écrit un nombre important de contributions, d'articles scientifiques, de bouquins, le petit guide chez Glénat. Donc, c'est, je dirais, du point de vue de la recherche académique, le meilleur spécialiste. Alors, une fois de plus, Gilles, c'est un politiste. Donc, lui, il a une vision, pareil, plutôt du point de vue des grandes organisations. Il ne s'intéresse pas tellement à l'histoire du quotidien. Ce n'est pas son objet. Donc je pense qu'à côté du travail de Gilles Vernion, il faudra aussi contribuer, c'est pour ça qu'il y aura toujours des travaux de recherche, pour mieux connaître aussi l'expérience concrète, en particulier des liens entre ces organisations du maquis du Vercors et les populations rurales. Il a mené une réflexion sur la mobilisation, peut-être un petit peu, pour dire une formule non pas dépréciative, mais l'intitulé de son article, c'est « Se libérer seul et trop tôt hein, », les maquis en action, juin-juillet 44. Alors c'est un petit peu les dysfonctionnements des grandes organisations de la résistance entre les états-majors et la réalité de terrain. C'est-à-dire que la levée en masse avec beaucoup d'enthousiasme du mois de juin 44, qui a aussi suscité, vous savez, beaucoup de dégâts humains, pas que dans le Vercors. Hein. Et cette question-là, qui suscite des débats, hein, Vernion apporte sa contribution à l'exercice.
Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. La fortune vient en dormant.